le renforcement des liens entre l'Iran et le Venezuela et la résistance active contre les pays impérialistes conduiraient à la victoire, a dit le président iranien. En Syrie, plusieurs personnes ont été blessées dans l'explosion mardi 5 juillet d'un engin explosif planté par des individus inconnus au nord-ouest d'Ir'a. Et 6 soldats nigériens ont été tués et 14 blessés dans la nuit de lundi 4 à mardi 5 juillet au cours de l'attaque menée par une cinquantaine de terroristes contre le poste militaire de Blabrine, au sud-est du Niger, près de la frontière avec le Tchad. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que le renforcement des liens entre l'Iran et le Venezuela et la résistance active contre les pays impérialistes conduiraient certainement à la victoire. Dans un message adressé mardi 5 juillet au président vénézuélien Nicolas Maduro, Ebrahim Raisi a déclaré qu'il était convaincu que la victoire serait obtenue en élargissant les relations bilatérales et en utilisant le modèle de résistance active face aux exigences excessives des pays impérialistes. Il a adressé ses félicitations au président et au peuple vénézuélien à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays, qui rappelle les efforts de Simón Bolívar, héros de l'indépendance et dirigeant politique de la fin du 19e siècle en Amérique du Sud, en faveur de la liberté du Venezuela et d'autres États d'Amérique latine. Le chef de l'exécutif iranien a exprimé l'espoir que Téhéran et Caracas amélioreraient encore leurs relations amicales stratégiques et mettraient en œuvre les accords précédemment conclus entre eux. Lors d'une visite du président vénézuélien en Iran le mois dernier, Téhéran et Caracas ont signé un accord de partenariat de 20 ans visant à renforcer la coopération dans divers secteurs, notamment dans les sciences, la technologie, l'agriculture, le pétrole et le gaz, la pétrochimie, le tourisme ainsi que la culture. Le président iranien a également félicité dans un message son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de ce pays. L'établissement et la poursuite de relations cordiales entre les deux pays depuis les premiers jours de l'indépendance de l'Algérie sont le fruit de la sagesse et du zèle des dirigeants des deux pays et de l'existence de points communs historiques, religieux, culturels et politiques entre les deux nations, a déclaré le président iranien. Il a exprimé l'espoir que l'Iran et l'Algérie verraient le développement des liens d'amitié et de coopération dans tous les domaines, dont le secteur économique, pendant le mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a tweeté ce mercredi matin 6 juillet, après sa conversation téléphonique mardi soir avec le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Un accord n'est possible que sur la base d'une compréhension et d'intérêts mutuels. Nous restons prêts à négocier un accord solide et durable. Les États-Unis doivent décider s'ils veulent un accord ou s'ils s'en tiennent à leurs exigences unilatérales, mutuellement exclusives. Pour sa part, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a tweeté, après ce contact téléphonique, « L'espace politique pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien pourrait bientôt se rétrécir. Si nous voulons conclure un accord, des décisions sont nécessaires maintenant. » a écrit Borrell sur Twitter, ajoutant qu'il était encore possible de relancer le plan d'action globale conjoint. Lors d'une conversation téléphonique avec la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lundi 4 juillet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que nous sommes sérieux et honnêtes afin d'atteindre un accord bon et stable. Et nous avons toujours présenté nos idées positives dans les négociations. Mais la partie américaine n'a participé au pourparlers de Doha sans une approche basée sur l'initiative et le progrès. En Syrie, plusieurs personnes ont été blessées dans l'explosion mardi 5 juillet d'un engin explosif planté par des individus inconnus dans un quartier dans la localité de Yadouda, au nord-ouest d'Hera. La correspondante de Sana, l'agence de presse officielle syrienne à Dera, a indiqué qu'un engin explosif planté par des personnes à l'identité inconnue avait explosé près d'une des pépinières dans le quartier central de la localité, ce qui a fait plusieurs blessés d'une seule famille, dont un est dans un état critique. La Russie continue de renforcer ses forces dans les régions du nord-est de la Syrie avec l'arrivée de 500 militaires affiliés à la division des parachutistes de l'armée russe à bord des avions militaires dans la ville de Ramishli, dans la campagne de Arsaké. Le déploiement des soldats russes vise à accroître les préparatifs de l'armée russe contre d'éventuelles opérations militaires de la Turquie et de ses mercenaires affiliés dans cette région. Fin mai, la Russie a envoyé de nouveaux avions de chasse et hélicoptères militaires à sa base de l'aéroport de Ramishli. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a exprimé lundi son mécontentement face aux actions de la Russie en réponse à d'éventuelles opérations turques dans certaines parties de la Syrie. Les développements surviennent alors que le porte-parole du Kremlin a déclaré mardi 5 juillet, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, que contrairement aux Américains, l'armée russe est stationnée dans ce pays à l'invitation des autorités syriennes. N'oublions pas qu'il y a après tout une différence sérieuse entre la présence des Américains là-bas et notre présence. Notre contingent est installé là-bas en pleine conformité avec le droit international à l'invitation des dirigeants syriens, mais les Américains n'ont pas une telle invitation, a souligné le responsable du Kremlin. L'euro a cédé du terrain face au dollar mardi 5 juillet, atteignant son plus bas niveau depuis 20 ans, à 1,029 $, sous la pression de la menace de récession dans la zone euro. La monnaie unique partagée par 19 États membres de l'Union européenne a continué de s'affaiblir, perdant plus d'1% face au dollar des États-Unis. Le taux de référence de l'euro face au dollar s'établissait à 1,04155 selon la Banque centrale européenne, BCE. L'euro a baissé de plus de 9% face au dollar depuis le début de l'année selon la BCE. L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier, PMI, qui mesure l'orientation des tendances économiques, a chuté dans la zone euro à 52,1 en juin, contre 54,6 en mai. L'inflation dans la zone euro a marqué une hausse, ce qui pourrait affecter la confiance des ménages et peser sur la croissance économique, selon les observateurs. Le taux d'inflation annuel dans la zone euro s'est envolé à 8,6% en juin contre 8,1% en mai, a indiqué le Bureau des statistiques de l'Union européenne. La BCE a mis fin en juin à son programme de rachat d'obligations et envisage de relever ses taux d'intérêt en juillet. Néanmoins, les obligations souveraines de certains États membres, tels que l'Italie, ont enregistré une hausse considérable depuis l'annonce de la décision de la BCE de relever ses taux. 6 soldats nigériens ont été tués et 14 blessés dans la nuit de lundi à mardi, 5 juillet, au cours de l'attaque. 5 juillet, au cours de l'attaque menée par une cinquantaine d'extrémistes présumés contre le poste militaire de Blabrine, sud-est du Niger, près de la frontière avec le Tchad, a annoncé le mardi 5 juillet le ministère de la Défense. Le bilan provisoire fait également état de 17 morts côté ennemi, tandis que des armements et munitions ont été récupérés par les forces armées qui ratissent la zone, a précisé le ministère dans un communiqué lu à la radio publique mardi soir. Il n'a pas précisé l'identité des assaillants, souvent pointés comme étant des terroristes Boko Haram ou du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Selon le ministère, l'attaque a été menée dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 juillet, aux environs d'une heure du matin, mais la réaction des soldats a permis de repousser l'attaque et de mettre l'ennemi en déroute. C'est la seconde attaque en 3 jours dans le sud-est nigérien, après celle de dimanche, au cours de laquelle un soldat est mort dans un assaut mené par des éléments de Boko Haram à Garindogo, près du Nigeria. Blabrine est située dans le département de Nguigbi, région de Diffa, et frontalier avec le Tchad. Sa base militaire a été plusieurs fois visée depuis 2015 par des attaques terroristes. En mai 2020, 12 soldats nigériens y ont été tués et 10 blessés lors d'une attaque attribuée à Boko Haram, selon un bilan officiel. Fin octobre 2019, 12 soldats nigériens avaient été déjà tués et 8 blessés lors de l'attaque de cette même base. Le Soudan et le Soudan du Sud ont signé mardi 5 juillet un protocole d'accord qui facilitera la circulation des biens et des services entre les deux pays et servira de guide alors que les deux pays se préparent à ouvrir leurs frontières. Selon Ayi Akol Madout, commissaire général des services des douanes du Soudan du Sud à l'autorité fiscale nationale, le document facilitera le flux de marchandises vers la capitale Djouba dans les plus brefs délais et fournira également une concurrence pour les produits importés au Soudan du Sud depuis l'Afrique de l'Est. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les États-Unis dans l'impasse, aussi bien dans le domaine militaire que le commerce et l'industrie. Les États-Unis sont partout en retraite, en défaite ou dans l'impasse, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine du commerce et de la production industrielle, a écrit la revue américaine The National Interest. Malheureusement, il est loin d'être clair que Poutine perdra réellement la guerre. Si, à la suite d'un compromis négocié ou d'une impasse prolongée, une grande partie de l'Ukraine reste indéfiniment sous occupation russe, alors, malgré les coups, Poutine aura réussi un revanchisme territorial en Ukraine, en plus d'avoir annexé la Crimée et d'être entré en guerre avec succès pour empêcher une adhésion de la Géorgie à l'OTAN, a souligné Michael Lind, auteur de l'article pour The National Interest. Au niveau mondial, la campagne américaine pour amener d'autres nations à sanctionner la Russie pour la punir d'avoir envahi l'Ukraine a été un échec. Les pays qui ont sanctionné la Russie sont composés des États-Unis et du Canada, de l'Europe, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. La plupart des pays du reste du monde, y compris l'Inde, le Mexique et le Brésil, ainsi que la plupart des pays d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique, ont refusé de suivre la politique américaine, note l'analyste. Alors que le Congrès vote en faveur de la livraison d'armes pour saigner la Russie dans une guerre par procuration en Ukraine, partout ailleurs dans le monde, les États-Unis chancellent après une série de défaites stratégiques humiliantes. Après deux décennies de combats en Afghanistan, Washington l'a brutalement abandonné aux talibans dans un bagout encore plus chaotique et embarrassant que la chute du Sud-Vietnam. Dans l'Irak, pour Saddam, la présence américaine restante est contestée par de nombreux Irakiens. Le Parlement irakien a récemment adopté une loi punissant la normalisation des liens avec Israël par la mort ou la réclusion à perpétuité. En Syrie, Bachar al-Assad a survécu à la guerre de Washington pour le destituer. Le renversement de Muammar Kadhafi en Libye par les États-Unis et l'OTAN a produit le chaos et la désintégration. Vous vous souvenez de la place Tahrir ? L'armée est de retour aux commandes en Égypte, peut-on lire dans l'article. Plus loin dans ses propos, Michael Lind a précisé que le principal adversaire des grandes puissances américaines est la Chine. La nouvelle que les États-Unis manquent de missiles Javelin et Stinger pour réapprovisionner l'Ukraine pourrait confirmer ceux à Pékin qui pensent que l'Amérique est un tigre de papier. En allusion à la rivalité sino-américaine, l'analyste souligne que la Chine est en train de faire retirer Washington de la scène dans divers domaines. Pendant ce temps, la Chine chasse les États-Unis et leurs alliés d'un marché mondial après l'autre. En 2010, la Chine a dépassé l'Amérique en tant que premier fabricant mondial. En 2021, la Chine a dépassé la Corée du Sud en tant que premier constructeur naval mondial, précise l'analyste. Partout où nous regardons, nous voyons donc les États-Unis en retraite, en défaite ou dans l'impasse, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine du commerce et de la production industrielle. Depuis la chute de Saïgon, à l'exception des victoires militaires en Irak et en Libye qui ont conduit au chaos, les seules victoires militaires et géopolitiques durables de l'Amérique et de ses alliés se sont déroulées en Europe. L'un était la libération sans effusion de sang de l'Europe de l'Est de l'Armée rouge et l'incorporation d'une grande partie de celle-ci dans l'OTAN. Une autre fut la défaite de la Serbie dans la guerre de succession yougoslave. incapable de résister aux tactiques du salami chinois en mer de Chine méridionale et incapable de convertir des victoires militaires à court terme en victoires diplomatiques durables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la politique étrangère américaine n'a connu de succès qu'en Europe, poursuit The National Interest. Elle a la liste de conclure. On m'a dit que les Allemands ont un proverbe sur le travail dans une hiérarchie de bureau. Inclinez-vous devant, donnez un coup de pied derrière. C'est une bonne description de la stratégie mondiale actuelle de l'Amérique pour masquer son déclin accéléré. Tout en apaisant une Chine puissante et montante dans la pratique, les États-Unis se battent avec des pays faibles, la Serbie, l'Irak, la Syrie, la Libye. Les États-Unis sont une force en déclin dans le commerce mondial et dans la diplomatie mondiale.